Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons mode, mais bien au-delà, je dirais, puisque nous allons parler du seul vêtement porté partout dans le monde. Pas cher, simple à fabriquer, si vous n'avez pas encore deviné, il s'agit du t-shirt. T pour la lettre T, car il s'agit en fait d'un tricot de corps en forme de T, créé à l'origine comme sous-vêtement d'homme, notamment pour l'armée américaine. Le t-shirt aujourd'hui est porté comme une seconde peau par des ouvriers ou des rockstars. Il permet d'exprimer sa personnalité avec des messages politiques, humoristiques. Nous en discutons avec nos invités. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Brune. Anna Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de la mode chargée de conservation à la Fondation Azzedine Alaïa. Rappelons-le pour nos auditeurs, Azzedine Alaïa qui était un célèbre créateur décédé en 2017 et qui a beaucoup travaillé sur la maille, le jersey.
Une de ses matières préférées.
Exactement, précisément le jersey. C'est aussi la base de la matière pour le t-shirt qui est extensible.
Ouais.
En deuxième partie, nous serons en ligne avec Neila Jaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette qui lutte pour de meilleures conditions de travail des ouvriers du textile dans le monde. Parce que ne l'oublions pas, le t-shirt, c'est aussi l'emblème de la fast fashion. Cette mode qui consiste à produire toujours plus avec les dommages que l'on sait sur l'environnement, sur les ouvriers. Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend vos témoignages. Parlez-nous de vos t-shirts, ceux qui vous rendent très beaux, très fiers, ceux que vous portez pour peut-être briser les codes vestimentaires ou ces t-shirts que vous gardez en souvenir malgré les trous. Appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Alors, est-ce qu'on peut travailler en t-shirt? La réponse est en tout cas assez claire pour certains d'entre vous. Blessing, qui est à Bukavu, en République démocratique du Congo, nous dit « Les t-shirts sont méprisés dans mon pays, surtout dans les milieux professionnels. On dit que ce n'est pas l'habillement de ceux qui se respectent. Il est même difficile de le porter pour sortir, par peur d'être jugé. C'est pourquoi moi je n'en porte qu'à la maison. » Voilà. Archéduc, qui est à N'Djamena au Tchad, nous dit « Moi je porte des chemises dans la journée pour aller travailler, parce que je suis comptable. Mais le soir, je me change, j'enfile un jean ou un kaki avec des t-shirts. Et là, je me vois beau, élégant, je me sens fier. »
Oui, bonjour à RFI, bonjour à tous les voisins et les voisines. C'est la voix de Koku Rodrigue Egli depuis Lomé, Togo. Quand je suis dans mes t-shirts préférés, je me sens très esthétique et très fascinant. Et la plupart des t-shirts là, ils sont fabriqués au Togo. Et ils sont fabriqués par nos grands frères et qui sont très chers aussi. Et quand les gens te voient dans ça, ils vont te voir comme un best. Et c'est le respect pour nous. Arisso Le Blédard fait sortir un t-shirt qui s'appelle Akla, que j'aime beaucoup et j'aime porter. Et quand tu portes ça, c'est très joli. Merci à vous.
Bonjour, c'est Mariama depuis Dakar au Sénégal. Alors moi, je voudrais vous parler de deux t-shirts fétiches que j'ai et que je porte très très souvent. Le premier, il est bleu, donc il épouse parfaitement les jeans que je porte. Je le mets souvent avec un blazer ou bien un gilet ou bien avec une grosse écharpe en wax. Quant au deuxième, je l'affectionne particulièrement parce qu'il véhicule en même temps un message. C'est un t-shirt qui était conçu lors d'une manifestation organisée à Dakar contre les violences faites aux femmes. Bon, c'est vrai qu'après la manifestation, ben, je continue à le porter, notamment le week-end pour aller faire mes courses et tout ça. Et je vois que les gens me regardent et je suis très contente pour ça parce que je porte un t-shirt agréable en coton. En même temps, je continue à faire de la sensibilisation. C'est mes deux t-shirts favoris. Merci.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Et merci à Mariama pour ce message de t-shirt militant. Et merci à vous tous pour vos appels, vos messages. Vous êtes assez nombreux à souhaiter participer à l'émission. On est aussi en ligne avec Claude qui nous appelle de Bounia, en République démocratique du Congo. Bonjour Claude.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes étudiant en théologie pastorale et vous adorez porter des t-shirts. C'est possible avec vos activités ?
Bon, c'est pas compatible. C'est pas tellement compatible. C'est comme a dit quelqu'un de Bukavu. Chez nous ici, quand vous portez le t-shirt, c'est pas vraiment une tenue de respectable. Mais moi, c'est un peu ma passion.
Oui. Et pourquoi c'est votre passion ? Comment c'est arrivé, Claude ?
Bon, cela est arrivé il y a quelques années. J'ai travaillé dans un environnement où il y avait beaucoup de militaires, où tout était un peu militaire. Et c'est là où je suis tombé amoureux de t-shirts jusqu'aujourd'hui.
Ah oui, alors attendez, vous évoquez les militaires. C'est-à-dire que le t-shirt avait une connotation un peu virile ?
Exactement, exactement. L'environnement était pétri de t-shirts et vraiment... C'était un habillement qui permet d'être physiquement visible, ainsi de suite. Et je suis tombé amoureux de ça dans ces circonstances-là.
Ah, d'accord, un vêtement qui permet d'être physiquement visible, c'est-à-dire de montrer vos muscles, en gros, non ?
Exactement, à l'époque, c'était ça, montrer le muscle, et montrer comment on peut traiter les corps poilus, ainsi de suite. C'est très bien.
Et vous avez combien de t-shirts, Claude ?
Ouf, au moins 15.
Ah oui, bah vous savez que la moyenne, la moyenne par adulte en France, c'est 17. Hein. Donc voilà, vous êtes dans la moyenne, 17 t-shirts par adulte. Et vous les utilisez tous ou il y en a qui sont abîmés au fond de l'armoire ?
Ouais, bon, il y en a qui sont abîmés, que je ne porte plus, que je ne porte qu'à la maison. Mais il y a des autres qui sont au top, que je porte tout le temps. Même là, je suis en t-shirt, mais je viens de la bibliothèque.
D'accord. Et comment vous les choisissez ? Ils sont un peu tous pareils ?
Non, ils ne sont pas tous pareils actuellement, mais dans le temps, il y en avait de pareils pour simplement créer des confusions. Donc, je ne choisis pas, je prends, je prends au hasard ce qui est propre, je mets et je m'en vais.
Mais alors, il paraît qu'à un moment donné de votre vie, c'est ce qu'on m'a dit au Standard, Claude, hein, vous avez eu 5 t-shirts de la même couleur, de la même marque et de la même taille.
Exactement.
Donc en fait, pour les gens, ils avaient l'impression que vous étiez tous les jours habillés de la même façon toute l'année.
Oui, c'était un peu ça. J'avais des amis qui me taquinaient à propos des t-shirts, ainsi de suite, et je me suis dit, je vais les emmerder un peu.
J'allais
acheter 5 de même couleur et j'ai porté ça pendant toute une semaine, question qu'ils parlent. Et quand quelques temps après, ils sont arrivés à la maison chez moi, ils se sont rendus compte qu'il y en a plutôt nombreux, mais de même couleur et de même marque.
C'est ça. Donc, vous nous avez rassuré, vous changez bien de t-shirt, Claude. Mais c'est amusant, en tout cas, comme clin d'œil. Merci, en tout cas, de nous avoir appelé. Et vous continuez de nous téléphoner. On parle du t-shirt. On va revenir un peu aux origines du t-shirt avec nos invités. Le numéro du WhatsApp, c'est 33 7 64 45 51 41. Très bonne journée à vous, Claude. À Bounia, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, Anna Morel, je ne sais pas, peut-être quelques commentaires, Marie-Jeanne, sur ce qu'on vient d'entendre.
Alors, c'est très drôle que cette passion pour leur t-shirt lui soit venue, donc, finalement, d'un environnement militaire, parce que la base du t-shirt, la naissance du t-shirt, vient justement des militaires, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Oui, Anna Morel.
Alors, on peut trouver l'origine un peu plus lointaine au Moyen-Âge, où déjà on portait comme sous-vêtements...
Au Moyen-Âge ?
On portait comme sous-vêtements des chemises en toile, parce qu'elles étaient plus faciles d'entretien, plus faciles à laver sous les vêtements qu'on portait. Donc ça reprend un peu la forme du t-shirt. Et cette chemise va évoluer notamment au 19e siècle avec les métiers à tisser dans une matière qui se rapproche plus de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit le t-shirt tel qu'on porte aujourd'hui apparaître en 1913 à peu près, quand la US Navy adopte ce t-shirt comme sous-vêtement officiel pour ses soldats.
1913.
Voilà. Ouais.
Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours ce sous-vêtement, comme vous dites, pour que ça absorbe la transpiration, ne pas salir, et ne pas avoir à laver trop souvent les vêtements du dessus. Hein. Historiquement, c'était ça.
C'est ça, oui. Ouais.
C'était un sous-vêtement.
Oui, on est bien d'accord. Voilà.
Oui, c'est très fonctionnel, c'est résistant, ça se lave facilement, ça sèche vite. Donc pour l'armée de mer, c'est parfait.
Comment on passe d'un sous-vêtement militaire, d'un vêtement technique finalement, à un vêtement qui devient un vêtement iconique, qui fait rêver les gens, beaucoup les hommes au départ quand même, outil de virilité, mais pas que.
Il y a plusieurs étapes. assez rapidement, après, à la fin des années 30, on va avoir les premiers fabricants de masse de t-shirts américains. Donc je pense à Fruit of the Loom, qui existe encore aujourd'hui, ou Sears, qui est l'équivalent de Tati, on pourrait dire, qui propose ce qu'ils appellent un gob en publicité. Donc c'est de l'argot américain qui signifie marin. Et en disant, voilà, on vous propose un t-shirt à porter aussi bien en dessous qu'au-dessus. Donc c'est le moment où on va commencer à envisager ce sous-vêtement comme un vêtement. Après, c'est vraiment dans les années, à la fin de la guerre et les années 50, où ça va être complètement popularisé. Donc d'une part parce qu'on va avoir les soldats victorieux américains qui arrivent en Europe vêtus de ces t-shirts-là. Donc on va pouvoir, la population va associer le t-shirt à une masculinité triomphante, ce qui disent un peu à la virilité, etc. Et le t-shirt va être adopté dans les années 50 par les stars de cinéma hollywoodiens qui le portent à l'écran. Donc je pense évidemment à Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir.
Ah, ça c'est 1951.
Voilà, dans les années 50, c'est à ce moment-là vraiment où James
Dean... Il a son t-shirt où on voit les traces de sueur.
De sueur,
carrément,
complètement. Ouais,
bien sûr. C'est très sexualisé en fait.
Ouais. Très sexuel.
Ouais. Très sensuel. Bah, c'est un dessous. Et c'est vrai que ce que disait le monsieur, c'est qu'on voit, laisse complètement suggérer les formes du corps et... Par ailleurs, là, c'est des hommes qui sont considérés comme des sex-symboles qui le portent. Et du coup, il y a toute une nouvelle génération, une jeunesse qui va adopter un peu l'uniforme t-shirt jean, qui est encore l'uniforme qu'on porte aujourd'hui. D'une part, pour ressembler à leur star préférée, mais il y a aussi, à ce moment-là, c'est une jeunesse qui va vouloir se distinguer de ses parents. Et ça va passer... Donc, ça annonce la révolution sociale qui va arriver dans les années 60, mais... Ça passe aussi par le vêtement et on va dire on ne va pas s'habiller comme papa-maman, on va prendre un nouvel. Donc,
oui, c'est une rupture générationnelle.
Voilà, au départ, il y a un esprit un peu de provocateur, de porter un dessous comme dessus. Puis très rapidement, il y a aussi une idée de confort. Et donc, on va le porter. C'est à ce moment-là vraiment que les années 50 que le t-shirt arrive dans la garde-robe quotidienne.
La virilité, la rupture générationnelle, le confort. Mais pour les femmes, comment ça s'est passé ?
Ça arrive un peu plus tard, je dirais dans les années 60-70, très rapidement, parce que de toute façon, on est sur à ce moment-là, la mode devient de plus en plus unisexe. Et les femmes, donc dans les années 60, on va avoir des stars qui vont commencer à le porter. Et dans les années 70, on voit dans les photos, dans la rue, dans la mode de la rue, que femmes comme hommes portent le t-shirt.
Ce qui est fascinant, Marie-Jeanne Sermin-Thomas, c'est qu'avec le t-shirt, peut-être plus d'ailleurs que pour le jean, c'est que le t-shirt, c'est un peu comme une page blanche. On peut tout faire, on peut tout écrire dessus, même si la forme va rester toujours assez banale, hein, toujours cette forme de T, les manches courtes, le ras du cou. Mais dessus, tout est possible, finalement.
Alors, tout est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que ce t-shirt qui d'habitude était immaculé, hein, parce que le t-shirt de Marlon Brando était blanc, n'est-ce pas ? Blanc, vraiment un blanc très, 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 très dense, comme ça. Et sa peau était bronzée, donc il y avait un espèce de contraste qui faisait qu'on le voyait très bien. Le t-shirt va prendre de la couleur, mais il va devenir aussi un médium, un instrument de profession de foi. Et cette profession de foi, on peut la situer un petit peu au moment de la guerre du Vietnam, où de plus en plus de jeunes vont écrire leurs sentiments sur Stop War, Make Love Not War. Donc tout le mouvement hippie a été vraiment un espèce d'accélérateur finalement de ce non-genré du t-shirt. Les filles ont commencé à le porter. Le t-shirt aussi a commencé à changer aussi de style, c'est-à-dire qu'on commençait à le découper. Là, je reviens de Londres et c'est extraordinaire de voir que bon, il faisait quand même assez froid et toutes les jeunes filles, hein, malgré ce froid, avaient des crop tops, c'est-à-dire des t-shirts très courts
qui étaient recoupés, hein,
qui souvent recoupés en fait. Bon, on ne voit pas la poitrine, mais on voit bien le ventre. Donc le t-shirt aussi, on sait que c'est un t-shirt, mais ça prend de l'essor, ça devient encore de plus en plus mode. C'est-à-dire que le T reste là, mais on lui fait des infidélités. Voilà. Donc pour revenir à la question. Emmanuel, ce support, voilà, c'est vraiment un médium, a été très très important. Et jusqu'à présent, les marques en font un label. Bon, il y a une marque qui a écrit il n'y a pas très longtemps « Nous sommes tous des féministes » pendant un défilé de mode, alors que c'est une marque ultra luxe et tout ça. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Et c'est vraiment devenu un outil de revendication. Et par exemple, pour le continent africain, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment des élections, donc c'est un des les outils les favoris de communication des candidats, puisqu'on met voter ceci, voter cela, voter papa ceci, voter voilà.
Avec la photo du candidat.
Mais... Avec la photo du candidat, ou alors quand il y a des personnalités aussi, quand le pape vient, quand il venait en Afrique, il y avait la photo, il y avait le pain qu'on faisait avec la photo du pape, mais aussi le t-shirt. Donc ce sont vraiment des médiums très très importants qui jusqu'à présent restent aussi pour la publicité des marques un atout considérable.
Ouais. Bon, sur d'autres continents, en Europe notamment et en France, alors moins aujourd'hui, mais il y avait des t-shirts à l'effigie des partis politiques. Bon,
oui,
aujourd'hui,
bien sûr.
Les partis politiques ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous nous appelez en tout cas au 33 7 64 45 51 41. On parle du t-shirt dans tous ses états, le fameux T, auquel on fait des infidélités, comme nous a joliment dit Marie-Jeanne. Et on accueille Altiane qui est en ligne avec nous de Brazzaville au Congo. Bonjour Altiane.
Bonjour à vous, bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Soyez la bienvenue Altiane. Alors vous avez une dizaine de t-shirts, hein, je crois.
Oui.
Mais vous aimez les t-shirts à message, hein, je crois.
Oui. Moi j'ai une dizaine de t-shirts, comme je suis le dire, mais j'ai un favori. Un t-shirt favori.
Oui.
C'est-à-dire celui du thé.
Il y a énormément de bruit autour de vous, Altiane. Je crois qu'on a dû vous dire qu'il fallait vous mettre dans un endroit calme. Est-ce que vous pouvez faire quelques mètres en nous parlant et racontez-nous votre t-shirt favori?
D'accord. Mon t-shirt est le t-shirt de Che Guevara,
ouais.
Qui m'a été offert par ma soeur cadette,
ouais.
Après ses études de médecine à Cuba.
Uh-huh.
Et j'aime bien ce t-shirt parce que sur ce t-shirt... Le tien a un regard déterminé et il est sûr de lui.
Hein?
Et moi, quand je l'arbore, je me sens bien aussi.
Et il est quelle couleur, ce t-shirt?
Il est de couleur orangée.
Ouais. Et comment... Oui. Vous dites que vous sentez bien. Et quel est le regard des autres quand vous portez ce t-shirt, Altiane?
Donc souvent, les gens me dévisagent. Hein.
Ah oui?
Dévisagent, mais moi, ça ne me dit absolument rien.
Ça ne vous dérange pas?
Ça ne me dérange pas du tout parce que le chien était quelqu'un de bien, qui luttait pour le dénuement des plus pauvres. Hein. Il luttait aussi contre l'injustice sociale.
Mm-hmm.
C'est ça.
Donc vous aimez ce t-shirt à message politique à l'effigie d'un héros. Merci Altiane de nous avoir appelé. Très bonne journée à vous à Brazzaville. Je crois que le Che Guevara, c'est peut-être le personnage le plus représenté sur les t-shirts, non? Avec Nelson Mandela, non?
Jimi Hendrix aussi.
Jimi Hendrix aussi, peut-être.
Oui, oui, oui.
La bouche des Rolling Stones aussi.
Ouais.
Pour la musique.
Ouais.
C'est vrai que on le disait, le t-shirt offre une créativité infinie. Alors j'ai une question quand même d'un auditeur. Conseil mode pour vous, Marie-Jeanne Sermat-Thomas, et pour vous aussi d'ailleurs, Anna Morel. Arafat, qui est au Cameroun, demande quel genre de t-shirt et de couleur je peux porter, moi qui suis un homme noir de grande taille et pas costaud.
Ben là, il a l'embarras du choix parce que des créateurs comme Eddie Slimane a remis le t-shirt au goût du jour pour les hommes ultra slim. Et il y a un côté un petit peu androgyne, mais surtout un côté libre qui fait que c'est pas tellement le t-shirt qui sera important, c'est la façon dont on va le porter, c'est l'assurance qu'on aura parce qu'on peut être petit et rondouillard ou très grand. L'essentiel, c'est avoir quelque chose qui vous habille bien, mais surtout de le porter avec une espèce de nonchalance provocatrice. Et ça, quel que soit l'endroit où vous irez, même si vous avez une superbe veste, mais le t-shirt est là, qu'il fait corps, qu'il fasse vraiment corps avec vous. Nonchalance, assurance et nos problèmes, vous serez le plus beau.
Ouais. Mais on sent quand même un petit complexe dans la question d'Arafat hein, qui nous dit « je ne suis pas costaud ». Alors est-ce que vous dites en gros ben « non, au contraire, il faut porter un t-shirt très slim, très près du corps, même si on est très mince ».
Ah oui, bien sûr.
Ou au contraire, est-ce qu'il faut se noyer dans un grand t-shirt ?
Non, il faut au contraire, il faut montrer... aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on lutte contre le surpoids, contre l'obésité, contre les formes, sauf quand elles sont au niveau des fesses et puis des seins. Donc, pour les hommes, ce n'est pas trop le cas. Mais non, je crois que, en fait, le t-shirt permet de mouler le corps quel qu'il soit. C'est pour ça que parfois, il y a des femmes qui n'aiment pas les t-shirts parce qu'elles trouvent que ça moule un peu trop. Ça moule
la poitrine.
La poitrine, mais surtout ce qu'on ne veut pas montrer, c'est-à-dire les poignées d'amour et tout ça. Il n'y a pas de politique pour porter un t-shirt. Il n'y a pas de corps. idéal pour porter un t-shirt, parce que le corps de Marlon Brando et celui de Monty Cliff n'est pas du tout le même. Et ce sont vraiment les deux stars américaines. Il y en avait un qui était très brun, l'autre qui était très blond, hein, blondinet. Et en fait, ils ont porté les t-shirts avec une espèce de sensualité qui leur était propre. Et ce n'était pas du tout la même morphologie.
Ouais. Et donc la morphologie n'a pas d'importance. C'est peut-être ça le succès du t-shirt, c'est que finalement... Il n'y a pas de corps pour le t-shirt.
Non,
il convient à tout le monde. Et puis, je pense qu'il faut aussi porter ce qu'on aime. Et tant, comme dans ce que disait, c'est que si on se sent à l'aise dans un vêtement,
oui, bien
on
sûr.
Est beau aussi. Il faut se sentir bien.
Oui, alors ça, tous les professionnels de la mode disent ça, mais c'est quand même plus facile à dire qu'à ressentir pour de vrai. Est-ce que le t-shirt blanc reste l'éternel attribut du séducteur ou pas pour vous, Anna Morel?
Moi, je dois avouer que j'aime bien ça, oui.
Marie-Jeanne ?
Non, moi je...
Quelle que soit la couleur de peau d'ailleurs.
Oui, oui. Moi je trouve que le t-shirt noir a quelque chose de précieux, de sophistiqué. Le t-shirt blanc, s'il est un peu blanc sale, c'est pas top.
Ouais.
S'il n'est pas...
Il devient vite blanc sale, vous voulez reconnaître.
Voilà, s'il n'est pas immaculé, c'est pas top. Donc, s'il y a une petite goutte de sauce à l'arachide, c'est pas top. Alors que le t-shirt noir, je trouve qu'il a...
Peut-être une durée de vie un peu plus longue. On va parler. Eh bien, justement, on va en parler de la qualité des t-shirts, hein, parce que ça laisse à désirer. Les voisins et les voisines, on vous donne la parole pour parler de vos t-shirts coup de cœur, mais on va aussi parler, effectivement, on va évoquer la mauvaise qualité des t-shirts, de la mode responsable aussi, comment en finir avec des t-shirts produits à bas prix, qui font des dégâts sur les ouvriers du textile, mais aussi sur l'environnement. On revient juste après cette parenthèse de Kuduro et la rappeuse angolaise Pongo. Hey Linda, tu sabes que essa diva. Não deixes ninguém duvidar, és a primeira a acreditar. Tá freak no beat, tá tipo é Kuduro. Já disse, não vale a pena duvidar. Essência presente em Kuduro, uma bag na linha da frente, che. Maje, você que disse não tá me vê. Pongo no beat, aniquila, che. É linda, tu sabes que és a diva. Não deixes ninguém duvidar. És a primeira a acreditar. Quem tá à procura de rompimento, pode ser aconselhamento. Quem tentar o afrontamento, nem com anos de tratamento, vai sarar do atropelamento. Linda, tu sabes que és a diva. Não deixes ninguém duvidar. És a primeira a acreditar. Milliards de voisins, nous sommes bien en direct sur RFI. L'émission est consacrée au t-shirt, c'est le vêtement le plus vendu au monde. Il affiche souvent des logos, des messages optimistes, mais il porte aussi dans ses fibres toutes les contradictions de l'ère du jetable, de la mondialisation. 632 millions de t-shirts ont été importés en France en 2018. C'est un chiffre qui est quand même donne le vertige. Mais pendant la chanson de Kuduro, c'est vrai qu'on en discutait avec vous, Marie-Jeanne Serbin-Thomas du magazine Brune et Anna Morel, historienne de la mode. On revenait un peu sur la question du respect, parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous ont dit « on n'est pas respecté quand on porte un t-shirt ». Et vous nous disiez, Marie-Jeanne, oui, mais parmi les hommes les plus riches du monde et des États-Unis, on a des gens comme Mark Zuckerberg, qui n'ont probablement jamais porté autre chose que des t-shirts.
Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une tendance qui est très californienne et pas trop new-yorkaise. Mais ça ne choque absolument personne aux États-Unis de voir Zuckerberg, de voir Elon Musk, de voir des leaders d'entreprise, des personnalités de très très haut niveau porter des t-shirts et d'être ou en petit polo.
Ouais. Donc la vie ne fait pas le moine.
Non, absolument.
En tout cas aux États-Unis.
Alors qu'en France, on est beaucoup plus rigoureux sur ça. Ce que vous disiez, c'est qu'on a tous en moyenne 17 t-shirts dans notre garde-robe. On le porte souvent et pourtant, ce n'est pas accepté dans toutes les circonstances. Je pense notamment, par exemple, en 2019, quand Sibeth Ndiaye porte un t-shirt sous une veste.
Qui était porte-parole du gouvernement à l'époque d'Emmanuel Macron.
Pour le 14 juillet, porte sous sa veste bleue un t-shirt blanc avec une écriture rouge, donc qui est quand même dans le thème bleu, blanc, rouge, fête nationale. Et qui a été fortement critiqué par la presse. On a qualifié sa tenue de beaucoup trop décontractée et même on parlait de manque de respect.
C'est vrai. En même temps, ce fameux t-shirt, quand même, il se démocratise de plus en plus, hein, puisque certains prévoient même la disparition de la cravate dans le secteur de la finance et de la banque à moyen terme. Donc, il faudra bien que ça soit remplacé par autre chose. Ce sera peut-être simplement des chemises, mais il y aura forcément des t-shirts qui arriveront. Mamadou est à Dakar, au Sénégal, et il nous dit qu'il y a beaucoup de t-shirts de mauvaise qualité aussi au Sénégal. J'aime les t-shirts américains. Ils sont jolis, sont de bonne qualité. Celui que je préfère est vert. Est-ce qu'il y a encore des t-shirts produits aux États-Unis, fabriqués aux États-Unis, honnêtement ?
Non, la Chine est le premier producteur mondial de t-shirts. Ce sont des quantités absolument colossales. Saint-Domingue produit des t-shirts aussi pour de grandes marques américaines, comme Ralph Lauren et tout ça, mais le t-shirt que l'on trouve dans les supermarchés ou alors qui seront avec les logos de certaines marques viennent en très très grande majorité.
Ou en tout cas d'Asie,
de Chine. Après, c'est sous-traité au Bangladesh, au Pakistan, en Inde, donc un petit peu au Cambodge aussi. Mais non, il n'y a quasiment plus de production. Ce n'est pas rentable en fait.
Alors, vous nous appelez, les voisines et les voisins. Bien sûr, vous avez la parole au 33 7 64 45 51. 41. Je reviens à cette étude que j'ai citée au début de l'émission, l'étude Kantar en France, qui a été réalisée cette année pour la marque Asphalt, qui est une marque de t-shirts durables. 17 t-shirts par adulte, hein, j'ai dit au début de l'émission, mais 7 qu'on ne porte jamais, tout simplement parce qu'ils sont devenus importables, les cols sont déformés, les couleurs sont dégradées, il y a des trous. Un t-shirt qui n'est plus porté termine le plus souvent transformé en chiffon. Quand il n'est pas jeté ou simplement oublié dans un coin, mais avant de décider de son sort, eh bien nous le gardons en moyenne 2 à 5 ans dans nos placards. Et pendant ce temps, on continue d'en acheter d'autres. Voilà, donc ça s'appelle quand même un cercle vicieux de la fast fashion. Est-ce que vous savez l'une ou l'autre comment on peut évaluer la qualité pour acheter des t-shirts ? Parce qu'on ne dispose pas de grammage au mètre carré, en fonction de la surface, du nombre de fils comme on a pour d'autres produits textiles.
Moi, je dirais au toucher. En général, c'est comme ça que j'évalue. Après, moi, je les aime bien épais, en général.
Oui, en fait, c'est au toucher parce que le t-shirt, c'est d'abord une fibre de coton qui est traitée, qui est étirée, qui est maltraitée et qui est mise qui est formée sur un tube. D'accord. Et ensuite, bon, qui est cousu. Donc, on coud les manches, on coud le col et puis l'ourlet en bas. Donc, et plus on va étirer cette fibre, plus la qualité sera de moins bonne. Donc, parfois, on ajoute effectivement des fibres synthétiques comme de l'élastane pour avoir une meilleure qualité de t-shirt. Mais il y a deux choses à voir. C'est le toucher, premièrement, et le prix aussi, même si, si vous voulez, les grandes marques qui mettent leur logo sur un t-shirt ne peuvent pas se permettre le luxe d'avoir un produit de mauvaise qualité.
En principe, parce que ça
va gâter leur nom, comme on dit.
Donc, en principe, il y a un tissage plus serré.
Donc, il y a un tissage plus serré.
Il y a plus de fil, donc voilà. Plus de coton, donc ça coûte plus cher.
Ça coûte plus cher. Il ne faut pas s'attendre non plus.
Mais je crois que c'est vraiment le toucher, en fait, cette expression, cette impression de vraiment de tenue du t-shirt, de qu'on le tire, bon, il va pas dans tous les sens, il s'étire effectivement, mais ça reste quand même normal, c'est-à-dire qu'on va pas le gonfler, on va pas l'étirer ad vitam aeternam, mais à l'extrême surtout.
Parlons maintenant en effet de la qualité, de la durabilité des t-shirts et de cette mode qui n'est pas toujours durable et le t-shirt semble être l'emblème de cette mode non durable. Bonjour Neila Jaltouni.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette qui lutte pour de meilleures conditions de travail des ouvriers du textile dans le monde. Jusqu'à quel point le t-shirt est le produit emblématique des usines à Bakou en Asie ?
Alors, ça fait partie d'un des produits emblématiques de cette mode qui s'est en effet démocratisée, peut-être au même titre que le jean, qui aussi a fait l'objet il y a quelques années, autour des années 2010, d'un véritable engouement, notamment avec les jeans délavés, le sablage des jeans. On a aussi des quantités énormes de jeans dans nos placards, avec l'introduction de nouvelles matières. Et donc, le jean comme le t-shirt sont deux produits phares emblématiques parce qu'ils sont portés par toutes les classes et qu'on les trouve à différents prix et qu'ils ont été aussi les produits phares des enseignes de la fast fashion que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire ce nouveau modèle de production dans lequel on produit en volume, on surproduit.
Et beaucoup,
des vêtements souvent de piètre qualité.
Pour le coup, beaucoup moins cher qu'un jean, le t-shirt. Hein.
Ah, mais vous avez des jeans à 9 euros, à 11 euros. Donc, c'est pour ça que je disais, ce sont deux produits emblématiques qui, sous couvert de démocratisation, sont venus en fait montrer la dégradation des conditions de travail et puis l'impact sur l'environnement de cette mode qui ignore justement ces impacts socio-environnementaux pour produire en masse, en volume, à des lieux, je dirais, de ce que devrait être la mode, c'est-à-dire une question de création, de savoir-faire, d'expression aussi et de convention sociale.
Alors moi, ce que j'ai trouvé comme chiffre, c'est qu'un t-shirt en coton consomme en moyenne 2500 litres d'eau et génère 5 kilos d'équivalent CO2. Et en moyenne, chaque ouvrier qui aura participé à sa fabrication ne percevra pour salaire que 0,6% de la valeur du t-shirt.
Oui, ça, c'est tout à fait flagrant. Bon, ça, c'est depuis les délocalisations en masse à partir des années 70, 80, puis accentué au début des années 2000 parce que le secteur de l'habillement textile a été entièrement libéralisé. Et c'est vrai que la part que reçoivent les travailleurs à l'international, hein, dans des pays pauvres, dans des pays à bas salaires, comme en Bangladesh, comme en Chine, mais aussi comme en Turquie ou dans les maquiladoras en Amérique latine, sont venus récupérer la portion congrue et on estime en effet entre 0,5 et 5% dans le meilleur des cas la part qui revient à tous les ouvriers qui ont confectionné le vêtement, donc le reste ça vient financer la communication, la publicité, les marges et bien sûr les énormes bénéfices de cette grande distribution.
Et les transports. L'accident du Rana Plaza, c'était il y a 9 ans maintenant, presque jour pour jour, puisque c'était le 24 avril 2013. Tout le monde se souvient de cet immeuble qui s'est effondré au Bangladesh, à Dhaka, avec plus de 1000 morts, 2500 blessés. Est-ce qu'on a progressé sur les conditions de travail dans cette industrie textile qui produit énormément de t-shirts ?
Oui, le Bangladesh, c'est le deuxième pays exportateur après la Chine. Donc, c'est notamment, il vient produire ces vêtements de piètre qualité en gros volume, qu'on ne peut pas recycler par ailleurs. Ce qui a immédiatement évolué après le drame, parce qu'il y a une mobilisation citoyenne et de la société civile sans précédent, ça a été la question de la sécurisation des usines. Donc, on a contraint les grandes multinationales d'habillement sur la pression à signer un accord qui les oblige à sécuriser les usines. Cet accord est arrivé à échéance au bout de 5 ans, donc en 2018. Il a été renouvelé en 2021 et on est aujourd'hui encore en campagne contre certaines enseignes comme Auchan, par exemple, ou d'autres, ou Levi's ou Ikea, qui refusent de nous signer à nouveau. Donc voilà où on en est, même si ça a été une très grande évolution. L'autre grande évolution, c'était la conscience des consommateurs qui ne veulent plus consommer de la même manière. Et puis, on a eu une grande avancée en matière juridique, puisque la France a été pionnière sur ce sujet. On a réussi à faire adopter de haute lutte aussi, avec des ONG, des syndicats, une loi qui rend responsable une multinationale pour les impacts sociaux et environnementaux tout au long de sa chaîne de valeur. Et maintenant, on cherche à ce que ces législations aient lieu au niveau européen et onusien.
Ah ouais, vous faites allusion à la loi sur le devoir de vigilance, loi française, mais qui concerne aussi des marques européennes comme Zara du groupe Inditex ou H&M. Comment ces marques-là peuvent être concernées par cette obligation légale si elles ont plus de 10 000 salariés? Elles doivent présenter un plan de durabilité, de bonnes conditions d'équipement, etc.
C'est ça. Alors malheureusement, ces deux enseignes échappent à la loi française parce qu'elles n'ont pas le statut juridique qui est couvert par la loi. Donc ça, c'est une des choses que l'on cherche à pallier au niveau européen. Mais en effet, les grands groupes de plus de 10 000 salariés, tous secteurs confondus, doivent, avec leur rapport annuel, présenter un plan dans lequel elles vont identifier les atteintes aux violations des droits humains et à l'environnement que crée leur activité. Mmh. C'est-à-dire que quand on sous-traite au Bangladesh, on sait qu'on s'expose à de la sous-traitance en cascade, à des salaires de misère. On sait qu'on va polluer massivement l'environnement. Et en face, les mesures qu'on prend pour prévenir ces risques. Et ce sont ces mesures qui vont être redevables devant les juges.
Donc elles doivent en principe se sentir responsables de leurs prestataires. Il y a aujourd'hui énormément de marques responsables qui affichent, qui disent « nous on produit des t-shirts de bien meilleure qualité, soit fait en France, soit fabriqués dans des conditions éthiques ». Est-ce que c'est un vrai progrès ou c'est ce qu'on pourrait appeler du greenwashing, c'est-à-dire qu'on utilise des arguments notamment sur l'écologie pour faire vendre une marque ?
Alors, c'est un vrai progrès lorsque ça provient de petites marques qui ont fondé leur modèle économique sur le respect de l'environnement et des droits sociaux des travailleurs. Et il en existe, mais ce sont des toutes petites marques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a donc des prix qui sont sans commune mesure avec celle de la fast fashion. Donc, c'est difficile de dire qu'on peut s'habiller facilement de manière éthique. Là où c'est du greenwashing ou du social washing, d'ailleurs, c'est quand ces discours viennent à grand renfort de communication d'enseignes de fast fashion comme H&M, Zara, Primark, qui, par leur modèle même, sont l'essence du problème. C'est-à-dire, c'est très bien que H&M ou Zara aient un t-shirt écolo, mais c'est sans commune mesure par rapport au volume, enfin au modèle qui vise à surproduire, à surdégrader l'environnement, parce qu'on ne recycle que 15% des textiles dans le monde. En fait, tout le reste, c'est des déchets, notamment en Afrique de l'Ouest, au Chili, enfin dans des pays pauvres ou en développement. Et ce sont des modèles qu'il faut enrayer parce que ils ont un coût environnemental et social qui ne faut pas comparer avec quelques modèles responsables au sein d'une enseigne. C'est tout le modèle qu'il faut changer.
Tout à l'heure, vous nous disiez, ce sont des t-shirts qu'on ne peut pas recycler. Vous vouliez dire qu'il y avait un problème technique pour les recycler ou tout simplement que ce n'était pas possible de rendre efficace une collecte de t-shirts troués, endommagés?
Alors, il y a les deux. D'abord, le fait qu'il y ait une telle surproduction fait qu'on n'a pas on a trop de matière, en fait, y compris trop de matière pour la seconde main. On n'a pas besoin d'autant de vêtements. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui est très rentable pour les marques et les enseignes en question, mais pour personne d'autre. Ensuite, avec la fast fashion, une des intervenantes parlait tout à l'heure de la production en coton, puis on est venu ajouter, en effet, des matières... artificielle, de l'élastane, du polyester. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui techniquement recycler un vêtement qui est composé de 5, 6, 7 fibres. Donc, c'est moins cher à produire, c'est moins cher à vendre, mais c'est un coût irréversible pour l'environnement. Donc, ça va finir dans des décharges. Il y a aussi la question de la qualité. C'est-à-dire que, comme vous l'idiez tout à l'heure, un vêtement, un t-shirt, dont le col est déformé ou délavé au bout de 4 ou 5 lavages, mais la fibre est trop dégradée pour être réemployée. Et puis, à un moment, on n'a pas besoin de serpillères et de matières textiles à ce point.
Oui.
Donc, la vraie solution, c'est qu'il nous faut revenir à l'essence, en fait, de la mode.
Mais alors, l'essence de la mode, vous nous le disiez, il faut un t-shirt forcément qui va coûter plus cher. En gros, pour avoir, en admettant qu'on achète à une marque honnête, pour un consommateur européen, il faut le payer combien son t-shirt pour espérer que il soit produit dans des conditions durables, écologiques, résistantes, avec un respect des droits sociaux, etc.
Alors, c'est très difficile de répondre à ce type de question parce que ça dépend vraiment du modèle. Une petite marque qui fabrique au Portugal quelques dizaines d'exemplaires, c'est difficile pour elle de sortir un t-shirt à moins de peut-être 40, 50 euros, je ne sais pas exactement. Oui. Mais on peut, si on continue, nous, on est une ONG de solidarité internationale, on considère qu'il ne faut pas forcément tout relocaliser, mais défendre les droits des travailleurs là où ils sont. On a le droit au Bangladesh de produire dans une industrie de l'habillement de qualité, en étant formé, etc. Et donc là, on a des coûts du travail encore sans que très très bas. Et même en triplant les salaires aujourd'hui en Bangladesh, qui permettrait à ces travailleurs d'avoir un salaire vital, décent, on aurait encore des vêtements très peu chers. Mais il faudrait forcément augmenter, en tout cas 3, 4, 5, quelques euros. C'est impensable, en fait, de penser qu'on puisse consommer. De la même manière que des légumes à moins de 1 euro, c'est mettre en difficulté des producteurs. Et donc, c'est l'intervention de la puissance publique. L'idée pour nous, ce n'est pas forcément aux consommateurs de payer plus, surtout dans des contextes de creusement des inégalités, c'est aux marques, en fait, aux enseignes, de prendre sur leurs marges et leurs bénéfices, et aux régulateurs de rendre coûteux ces modèles d'exploitation et d'obliger les marques à repenser, à aller vers des modèles qui leur permettent de respecter l'environnement et les droits sociaux.
Eh bien, merci beaucoup, Neila Jaltouni, d'avoir été en ligne avec nous du collectif Éthique sur l'étiquette pour nous remettre un petit peu la tête à l'endroit au-dessus du t-shirt. Mais on voit bien que le problème est complexe. Marie-Jeanne Sermin-Thomas, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Oui, en fait, il y a la responsabilité aussi du consommateur dont elle n'a pas parlé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, où les gens veulent avoir tous accès au même moment, à la même information, au même modèle, à la même robe, au même rouge à lèvres, et quand ces gens n'ont pas accès à ça, ils se sentent punis en quelque part. Donc les marques essayent mais il faut trouver un système qui soit pérenne et qui soit intelligent et surtout qui soit éthique, mais que la responsabilité aussi du consommateur, c'est au consommateur aussi de dire...
De résister aux histoires 17... vendues par le marketing, voilà. Et qui fait qu'on se sent puni.
Voilà, et les 17 t-shirts, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On peut en avoir 10.
Tout dépend. Si on ne porte que ça et qu'on n'a pas de chemise, pourquoi pas? J'en sais rien.
Mais ça se lave. Hein.
En tout cas, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille une dernière auditrice, Sarah, qui est graphiste béninoise. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Sarah, vous vous êtes lancée dans un projet de t-shirt. Expliquez-nous.
Alors nous, on a créé une marque totalement éthique, puisqu'on a créé une collection de t-shirts qu'on fabrique avec des artisans au Bénin, un maître sérigraphe, un brodeur, des couturières. Et notre collection présente des personnages historiques en lien avec l'histoire de l'Afrique ou des personnages noirs militants. Et de la création jusqu'à la vente, on est vraiment responsable, éthique, que ce soit les gens qui achètent, les matériaux qu'on utilise, les gens qui travaillent avec nous et notre façon aussi de travailler. Donc nous on est l'association AECOM, on est basé au Bénin, on fabrique tous les t-shirts au Bénin, on les vend et l'argent sert à financer des projets de développement en lien avec la musique et la culture au Bénin.
D'accord, donc avec l'achat d'un t-shirt Thomas Sankara ou qui d'autre d'ailleurs sur les t-shirts.
Il y a Angela Davis, Tchekanta Diop, l'empereur Ménélique, ouais. Nani, Sankara, beaucoup de leaders africains ou noirs américains qui se sont battus pour le droit à la justice, pour des causes nobles.
Et ça permet donc cet achat de financer des projets de développement. Mais vous disiez, Sarah, que ces t-shirts sont fabriqués au Bénin. Ils sont pas le t-shirt arrive vierge au Bénin, oui.
Voilà. Alors, il faut savoir que le Bénin, c'est le premier producteur de coton en Afrique. Mais le coton est exporté, les t-shirts sont fabriqués à l'extérieur.
À l'extérieur, c'est-à-dire où?
En Chine, souvent, ou en Angleterre. Et nous, on achète les t-shirts. Et par contre, le patch qu'on coud sur le t-shirt, là, c'est du coton du Bénin. L'impression en sérigraphie, paramètre sérigraphe au Bénin, la broderie au Bénin et la couture.
Mais oui, on voit bien, Marie-Jeanne Sermin-Thomas, quand même toute la difficulté de produire des t-shirts durables qui ne peuvent pas être made in Africa, finalement.
Oui, parce que dans l'exemple de Sarah, en fait, la matière première qui va servir finalement ce qu'on appelle le canevas, hein, où on va mettre toutes ces décorations, a fait combien de kilomètres avant d'arriver au Bénin ? C'est-à-dire que le coton brut est parti certainement du Bénin, est allé en Chine, est devenu un t-shirt en Chine, a refait un voyage pour revenir au Bénin. Mmh.
Est-ce que c'est tissé avec du coton africain ou pas, Sarah ? Est-ce que vous avez même cette information ?
Après, on perd la trace. Mais bien nous, sûr. C'est vrai qu'on met Made in Africa nos collections, mais on a hâte qu'il y ait des usines de t-shirts qui se fasse en Afrique avec le coton du Bénin.
Un message pour les investisseurs. Donc, merci beaucoup, Sarah, de nous avoir appelé. Anna Morel, on voit bien quand même que la question « Est-ce que le t-shirt peut entrer dans la mode durable ?» c'est une question qui n'est pas résolue.
Non, pas du tout. Effectivement, de toute façon, la mode durable, c'est une question aujourd'hui qui est très d'actualité, qui n'est pas résolue du tout, à quasiment aucun niveau, à part les petites marques. Je ne suis même pas sûre que les grandes marques de luxe produisent de toute façon écologique et respectueuse d'un point de vue salarial, etc.
Marie-Jeanne Sarmatoma, il nous reste quelques secondes.
Mais de toute façon, on n'aura pas le choix avec ce qui nous attend au niveau, si vous voulez, des risques climatiques dus à la dégradation de l'environnement. On n'aura pas le choix. Donc, à un moment, la mode devra prendre le pli de tous les autres secteurs de l'économie, que ça nous plaise ou non. Donc,
et le textile est un des secteurs les plus émetteurs.
C'est le plus polluant, effectivement.
Merci en tout cas à vous tous pour vos messages, pour vos témoignages, pour votre enthousiasme aussi pour le sujet. Et merci à vous, Marie-Jeanne Sarmatoma, rédactrice en chef du magazine Brune. Anna Morel, merci. Historienne de la mode, chargée de conservation à la Fondation Azzedine Alaïa. Et merci à Neila Ajaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette. Demain, 7 milliards de voisins parlera des défis du retour pour les jeunes repates. Si vous avez étudié, travaillé en Europe ou ailleurs et que vous avez décidé de revenir sur le continent africain, souvent contre l'avis de la famille, parfois en tout cas, racontez-nous vos difficultés, vos réussites, vos espoirs, vos déceptions, comment réussir son retour quand on est un repate. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec un artiste compositeur sénégalais, Nourou Kané. Way nañ sotantay xalaat wa suñu ngam suñu suuf suñu ay mayam lepp jëg suñu suuf africa chakwa dance chakwa 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 dance l'anglais chakwa dance portugais chakwa dance espagnol chakwa dance le français chakwa dance Italien, Hollandais, le Belge. Ils ont falsifié l'histoire alors qu'on vivait en harmonie. Trois siècles d'esclavage, la colonisation, vouloir effacer la mémoire des peuples africains. Chaque fois danse, chaque fois danse. Fais-je. Chaque fois danse, danse, danse. Chaque fois danse, Kankou Moussa. Chaque fois danse. Toussaint Louverture, Marcos Garvey. Because the time has come for the black man to forget his hero worship of other race. And to create and emulate heroes of his own. We must canonize our own saints, create our own language. Because Africa created millions and countless millions of black men and women in war and peace, whose luster and bravery outstand that of any other people. Kayima wax la ci benn ko bu ñuy fàttali ko di naan Ali. Kayima wax la benn ko fàttali ko leen Tyson. Kayima wax la fi fàttali ko li nga xamal ko dal Miles Davis. Déglu jëm si plan. Kayima ñu wax la benn ko bu ñuy fàttali ko Malcolm X. Kayima wax la benn ko bu ñu naan Sidi Bilal. Moo njëkk a nodda. Chaque fois danse. Chaque fois danse. Danse, danse. Chaque fois danse. Eh, Fetiel. Chaque fois danse. Bougez, bougez. Chaque fois dans. Voilà. Pourquoi des faits? Si nous tout en qui, manque ici respect. Hanga, bougez, bolo, mon diamant biaou. Bolo, Nyeringla. Africa, bolo. 7 milliards de voisins, c'est fini.